Frank et Cassanou étaient demeurés seuls à table. Lisabetta avait débarrassé les couverts et les plats avec une célérité inaccoutumée, laissant les hommes devant deux verres et une bouteille d'eau-de-vie de ses draps, avant de disparaître mystérieusement. Cassanou esquissa un sourire en regardant sa montre. « Lisabetta va nous rejoindre dans 20 minutes, » expliqua le vieil homme. « Ma femme est une hôtesse parfaite, vous avez pu le constater, mais elle est prête à renier toutes les traditions de l'hospitalité corse sur 3 générations pour ne pas rater plus belle la vie. » La scène parut improbable à Franck. Perdu à 500 mètres d'altitude, à 3 kilomètres de toute autre habitation, au cœur de la Corse. Plus étrange la vie. Cassanou était un type intelligent, à l'esprit étonnamment vif, qui semblait encore alerte physiquement. Un type comme il les aimait, comme il aimerait rester malgré les années qui passent. Droit, déterminé, raide aux besoins, des mains solides pour construire une famille, un visage carré pour y ranger en ordre ses convictions, un crâne bien dur pour ne pas en changer. Franck trempa ses lèvres dans l'alcool de ses draps et observa Clotilde, à une 50aine de mètres d'eux, debout avec Valou sous le chêne vert. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, confessa-t-il à Cassanou. Sa gêne sonnait comme une excuse. Cela sembla amuser Cassanou. Elle retrouve son enfance. Plus loin que ça encore, ses racines. Clotilde a beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'ai vue. Franck avait en mémoire les clichés surréalistes de sa femme adolescente. Les cheveux en hérisson, toute la panoplie de croque-morts. À l'époque, la rebelle gothique avait sans doute eu du mal à se fondre dans le décor local. Je suppose. Cassanou leva son verre, entre hommes. Un peu comme s'il s'agissait d'un rite initiatique pour être accepté chez les Idrissi. Que faites-vous dans la vie, Franck ? Je travaille à Évreux, une petite ville à 1 heure de Paris. Je coordonne le service espace vert. Vous avez commencé jardinier ? Oui, et j'ai grimpé petit à petit. Je me suis accrochée comme une espèce de glycine, de lierre ou de gui. C'est à peu près ce que les collègues doivent penser de moi. Cassanou fixa encore Clotilde et Valou, sembla méditer. Peut-être pensait-il à son fils qui lui aussi avait suivi des études d'agronomie avant de finir représentant en gazon. Le vieux Corse continua. Vous savez pourquoi, il y a près de 50 ans, j'ai baptisé ce camping, le premier de tout le nord-ouest de l'île, les Eproctes ?
Aucune idée.
Ça devrait vous intéresser. L'Eproctes, c'est une petite salamandre, une espèce endémique de l'île, qui vit près de l'eau, sous les rochers, qui aime le calme pour dormir le jour. C'est aujourd'hui une espèce protégée. Sa présence, c'est un marqueur de la qualité de l'eau. Mais pas seulement. C'est aussi un indice de la tranquillité d'un endroit, l'absence de bruit, de mouvement, d'intrus, d'une sorte d'équilibre, si vous voulez, depuis la nuit des temps. On trouvait des centaines de proctes entre Arcanou et le camping, jusqu'à la baie de la Rebellata. Et maintenant ? Et maintenant, ils foutent le camp, comme tout le monde. Franck hésita, vida la moitié de son verre, puis décida de tester un peu le vieux bonhomme. Pas vraiment comme tout le monde. J'ai plutôt l'impression que ça se construit dans le coin. Le camping, la marina Roque et Mare. Cassanou se contenta de sourire. Rien ne trembla, ni ses mains, ni sa voix. En 70 ans, Franck, le prix du foncier dans ce coin de cailloux posé sur la mer a augmenté de 800%. Depuis l'annonce de la construction de la marina, il a encore doublé. Près de 5000 euros le mètre carré. Alors oui, Franck, tout le monde fout le camp. Et ça continuera tant que les Corses n'obtiendront pas un statut de résident. Pour un type qui va acheter une fortune, un appartement de cette marina et venir y habiter 2 mois dans l'année, ce sont 30 jeunes du coin qui ne trouveront pas de logement. Trop cher ! Même si on leur propose de faire la plonge 10 week-ends par an dans le palace. Cassanou avait légèrement élevé le ton. Franck n'était pas d'accord avec le raisonnement du patriarche. La Corse n'avait pas le privilège de la spéculation foncière. Et les belles maisons, les belles bagnoles, les yachts et les jets privés, ça le faisait plus fantasmer que râler, même s'il ne pourrait jamais se les payer. Justement parce qu'il ne pourrait jamais se les payer. Il ne répliqua pas pourtant. Il n'avait aucune envie de se fâcher avec le grand-père de sa femme. le type le plus puissant du coin, d'après ce qu'on racontait. Il se tourna vers le chêne vert. « Tu viens, Claude ?»«
Oui, j'arrive. »
Doucement, à l'horizon, la boule de feu tombait dans la Méditerranée. Valou geignait.
« On fait quoi, maman ?»«
On reste encore un peu. »«
Jusqu'à quand ?»«
Jusqu'à ce qu'il fasse nuit. » Négligeant ostensiblement les soupirs de sa fille, Clotilde jeta une nouvelle fois un lent regard panoramique sur le paysage qui les entourait. Légèrement surélevée sur la butte où poussait le chêne vert, elle bénéficiait d'une vue à 360 degrés. Tiens-toi quelques minutes sous le chêne vert, avant qu'il fasse nuit, pour que je puisse te voir. Est-ce que l'auteur du message l'observait, les observait, elle et Valou ? Qui ? Où ? Elle pouvait être vue d'un million d'endroits, de n'importe quel point de la montagne qui formait un vaste amphithéâtre, à l'est et au sud, par n'importe quel voyeur dissimulé quelque part dans le maquis et disposant d'une paire de jumelles. À moins que le voyeur ne se tienne plus près, derrière l'une des fenêtres de la bergerie, de la grange sur sa droite, du hangar sur sa gauche, ou d'une des cabanes de bergers dispersées dans les prairies en pente douce vers les hauteurs de la Balagne. N'importe qui, n'importe où.
On y va, maman !
Le soleil s'était définitivement noyé. C'était fichu. Le voyeur ne se manifesterait pas. Il continuerait peut-être de les observer s'il disposait de lunettes infrarouges. Débile. Elle devenait folle. Cassanou et Lisabetta devaient se demander ce qu'elle fichait plantée là. Franck allait la maudire toute la soirée de l'avoir abandonnée à table avec son grand-père.
Oui, Valou, tu peux y aller.
Dans la montagne, en direction de la presqu'île et le long de la baie de Calvi, des lumières commençaient à s'allumer. Clotilde n'était qu'une fourmi dans un champ qui lui semblait infini, effrayée par les lucioles. Une ombre passa soudain à l'entrée de la bergerie, s'arrêta, la fixa, avant de disparaître dans l'ombre de la grange. Clotilde eut seulement le temps de reconnaître la sorcière, la vieille femme qui les avait maudits sur la route et avait ressurgi sur les photos en compagnie de Cassanou et Lisabetta. Quelques étoiles brillaient déjà au-dessus des montagnes, comme des cabanes de bergers mal arrimées qui se seraient envolées. « Je ne te demande rien d'autre, surtout rien d'autre. Ou peut-être uniquement de lever les yeux au ciel et de regarder Bételgeuse. Si tu savais, ma Clo, combien de nuits je l'ai regardée en pensant à toi. » Laquelle de ces étoiles était Bételgeuse ? Elle n'en avait aucune idée. Quelqu'un, quelque part, cherchait-il réellement à contempler cet astre en même temps qu'elle ? En communion, le regard tourné dans la même direction, tel Saint-Exupéry cherchant des yeux l'astéroïde de son petit prince. Sa mère ? Ça n'avait aucun sens. Bouger, se raisonna Clotilde. Rejoindre Franck, s'excuser, parler encore un peu, filer, oublier. Le chien surgit de la route et pénétra dans la cour au moment exact où Clotilde allait descendre la butte pour rejoindre la pergola. Dans la pénombre, elle ne distingua pas la couleur exacte de son pelage, mais l'animal avait la corpulence d'un labrador. Un chien de berger, sans doute. Clotilde aimait les chiens, comme les animaux en général. Elle ne ressentait aucune peur face à eux. Dans une autre vie, elle aurait adoré être vétérinaire. D'ailleurs, pourquoi s'effrayer de ce chien qui courait vers elle ? Cassanou allait appeler son molosse avant qu'il ne lui saute sur les genoux ou ne bave sur sa robe. Son grand-père imposait son autorité sur tous les Corses à 30 km à la ronde. Ce n'est pas son chien qui allait lui désobéir. Cassanou Idrissi ne prononça pourtant pas un mot, ne fit pas un geste. À l'instant où le chien s'approchait de la main que Clotilde lui tendait, une nouvelle ombre se détacha de l'entrée de la bergerie. Une ombre massive, qui leva un bras en direction du chien. Un seul bras indiquant des ordres précis. Orsou. La seconde suivante, Clotilde entendit sa voix.
Stop, Pacha. Ici, au pied.
Le chien s'arrêta net, ne la toucha pas. Il avait l'air particulièrement doux, avec des yeux farceurs à faire tourner les chèvres en bourrique. Pourtant, sans que son corps puisse résister, Clotilde s'adossa d'abord au tronc du chêne, puis lentement, centimètre après centimètre, glissa, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. pour se retrouver assise sur l'herbe, tremblante. Pacha l'observait, étonné, hésitant à lui lécher un bras ou une joue pile à la hauteur de sa truffe.
« Pacha au pied !»
répéta Ourso. Pacha. Ce nom continuait de cogner dans les parois du crâne de Clotilde. Mais ce n'était pas un labrador qui le portait. C'était un petit bâtard au pédigré indéfinissable que sa mère lui avait offert pour son premier Noël. Elle n'avait pas un an. Pacha. Son chien. Pendant les 7 premières années de sa vie, Clotilde l'avait porté dans ses bras, promené en poussette, gavé en cachette de carrés de chocolat et de morceaux de sucre. Pacha l'avait accompagné partout, comme une peluche vivante qui ne la quittait même pas à l'heure de la sieste ou la nuit, qui dormait sur son lit, qui se couchait en boule à côté d'elle à l'arrière de la Fuego. Puis un jour, Pacha avait sauté par-dessus la barrière. Sans doute cela s'était-il passé ainsi. Il n'était pas là quand elle était rentrée de l'école avec maman. Il n'était jamais revenu. Elle ne l'avait jamais revu. Elle ne l'avait jamais oublié. Ourso siffla cette fois, et le chien, enfin, fila vers son maître. Une coïncidence ? Se força à raisonner Clotilde pour calmer ses pensées affolées. Encore une coïncidence ? Des milliers de chiens en France devaient s'appeler Pacha. Le labrador qui s'éloignait n'avait pas plus de 10 ans. Il était donc né des années après que sa famille avait disparu dans l'accident. Presque 20 ans plus tard. Pourquoi alors lui donner le nom d'un bâtard de Normandie ? D'un bâtard disparu en 1981. D'un bâtard qui n'avait jamais mis les pieds en Corse, puisque les parents de maman le gardaient chaque été. D'un bâtard dont Cassanou, Lisabetta et Ourso devaient ignorer l'existence. Clotilde aperçut Franck se lever sous la pergola. Valou s'était installé un peu plus loin, les écouteurs fluo de son portable dans les oreilles, assise sur le banc de bois. « On y va, Clo ?»« Telle mère, telle fille. » devait penser Cassanou et Lisabetta. Sa grand-mère sortit à l'instant de la bergerie et embrassa Ourso comme s'il était son fils. « On y va !» répondit Clotilde. Pas facile de refuser, pas facile de s'attarder. À se tenir ainsi seule sous le chêne, Clotilde n'avait pas démontré un sens aigu de la famille. « Ma vie tout entière est une chambre noire. » Dans Beetlejuice, la jeune Lydia Dietz possède le pouvoir de parler aux fantômes. Peut-être Clotilde possédait-elle également ce don ? Avant, lorsqu'elle avait 15 ans. Elle l'avait perdu aujourd'hui. Elle n'était entrée en contact avec aucun fantôme ce soir. À part celui de son chien, son bâtard, réincarné en labrador.